Audiolib présente Le labyrinthe des esprits de Carlos Ruiz Zafón. Lu par Frédéric Mou. Le cimetière des livres oubliés. Ce livre fait partie d'un cycle de romans qui s'entrecroisent dans l'univers littéraire du cimetière des livres oubliés. Les romans qui composent ce cycle sont liés entre eux par des personnages et des fils qui tissent des ponts narratifs et thématiques, même si chacun offre une histoire complète, indépendante et se suffisant à elle-même. Les divers romans de la série du cimetière des livres oubliés peuvent être lus dans n'importe quel ordre et séparément. Ils permettent au lecteur d'explorer le labyrinthe d'histoire en y accédant par différentes portes et différents chemins qui, mis bout à bout, le conduiront au cœur du récit. Tout roman est une œuvre de fiction. Les quatre volumes du cimetière des livres oubliés n'y font pas exception, même s'ils s'inspirent de la Barcelone du XXe siècle. En quelques occasions limitées, la physionomie et la chronologie de certaines scènes, de marques ou de circonstances, ont été adaptées à la logique narrative, afin que Fermine puisse déguster ses chers Sugus quelques années avant qu'ils ne deviennent populaires, par exemple, ou que pareillement des personnages puissent descendre d'un train sous la grande voûte de la gare de France. Chapitre 1. Le livre de Daniel. 1. Cette nuit, j'ai rêvé que je retournais au cimetière des livres oubliés. J'avais de nouveau 10 ans, et je me réveillais dans mon ancienne chambre pour sentir que le souvenir du visage de ma mère m'avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c'était ma faute, seulement la mienne, parce que je ne méritais pas de m'en souvenir, et je n'avais pas été capable de la venger. Mon père entrait, alerté par mes cris d'angoisse. Mon père, qui dans mon rêve était encore jeune et en possession de toutes les réponses du monde, me prenait dans ses bras pour me consoler. Puis, alors que les premières lumières peignaient une Barcelone embuée, nous sortions dans la rue. Pour une raison que je ne parvenais pas à comprendre, mon père ne m'accompagnait que jusqu'au porche. Puis, il me lâchait la main et me faisait comprendre que c'était là un voyage que je devais faire seul. Je commençais à marcher, mais je me souviens que mes vêtements, mes chaussures, ma peau même me pesaient. Chacun de mes pas exigeait un effort plus important que le précédent. En arrivant sur les Ramblas, je remarquai que la ville était comme suspendue dans un instant sans fin. Les gens s'étaient arrêtés de marcher et ils paraissaient figés comme des silhouettes sur une vieille photographie. Une colombe qui prenait son envol n'esquissait qu'un dérisoire battement d'ailes floues. Des brises de pollen flottaient immobiles dans l'air, comme une poudre de lumière. L'eau de la fontaine de Canaletas étincelait dans le vide comme un collier de larmes de cristal. Lentement, presque comme si j'essayais de marcher sous l'eau, je réussissais à pénétrer dans la magie de cette Barcelone immobilisée dans le temps et à atteindre le cimetière des livres oubliés. Je m'arrêtais, épuisé. Je ne parvenais pas à comprendre ce qu'était cette charge invisible que je traînais avec moi et qui m'empêchait presque de marcher. Je saisissais le heurtoir et cognais à la porte, mais personne ne venait m'ouvrir. Je frappais plusieurs fois de mes poings, le grand portail en bois, mais le gardien ignorait ma supplique. Épuisé, je tombai à genoux. Seulement alors, en examinant le sortilège que j'avais traîné sur mon passage, j'étais assailli par la terrible certitude que la ville et ma destinée demeureraient figées à jamais dans cet envoûtement et que je ne pourrais plus me rappeler le visage de ma mère. Alors que j'abandonnais tout espoir, je le découvrais. Le petit morceau de métal était caché dans la poche intérieure de ma veste de collégien brodée en bleu à mes initiales. Une clé. Je me demandais depuis